Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. En cet été de célébration du centenaire du début de la guerre de 1914, il est souvent fait référence à l'Asie comme illustration de la tension qui régnait il y a 100 ans en Europe. Une guerre est-elle possible en Asie orientale face à la rivalité de puissance qui y prévaut? Rivalité entre la Chine et le Japon avec pour arbitre Washington qui n'est sans doute pas mécontent de contenir les ambitions de Pékin. Entre déclarations menaçantes et escarmouches plus ou moins maîtrisées, le climat en mer de Chine orientale est pour le moins empoisonné, voire davantage. En octobre dernier, Tokyo et Washington signaient une nouvelle version de l'accord de défense qui les lie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux mois plus tard, le gouvernement de Shinzo Abe annonçait une augmentation de son budget de la défense de 5% pour la période 2014-2019. Et tout récemment, le 1er juillet dernier, Tokyo décidait de réviser sa constitution et de s'autoriser à mener des opérations militaires collectives à l'étranger. Un vrai changement de la politique japonaise, car jusque-là, les forces nippones d'autodéfense ne pouvaient intervenir qu'en cas de menace directe sur l'archipel. Autant de réponses à l'évidence face à la prépondérance régionale que la Chine entend imposer dans le Pacifique occidental, sans que quiconque ne lui conteste ce retour dans une zone géopolitique qu'elle écrase de son milliard d'habitants et de son économie conquérante. Regard sur les forces en présence qui dépassent la simple rivalité Chine-Japon. Le Vietnam et les Philippines, notamment, ne sont pas sans se poser de questions. Nos invités, par téléphone, Valérie Niquet, maître de recherche responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marie Buissou, spécialiste du Japon, directeur de recherche à Sciences Po et représentant de Sciences Po au Japon. Ouvrage à paraître à l'automne prochain, Géopolitique du Japon aux presses universitaires de France. Bonjour Jean-Marie Buissou.
Bonjour.
Et en studio avec moi à Paris, Marianne Perrondoise, senior analyste sur les questions de sécurité en Asie. Bonjour.
Bonjour.
Que peut-on dire de la doctrine du Japon? Quelle lecture faire de la décision de l'administration japonaise de réviser le fondement légal de la politique sécuritaire du pays? Est-ce que le gouvernement japonais, dans ses décisions, est en accord aussi avec sa population? Qui veut répondre depuis Tokyo? Valérie Niquet, Jean-Marie Buissou?
Alors, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que... Pardon, excusez-moi, je prends la parole. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que ça répond à deux objectifs. Le premier, c'est qu'il faut renforcer absolument la garantie de sécurité offerte par le partenariat, c'est l'accord de sécurité et de défense entre le Japon et les États-Unis. Et en adoptant cette nouvelle mesure, le gouvernement japonais veut prouver à Washington qu'il est prêt à prendre sa part du fardeau. C'est un élément extrêmement important. Et évidemment, vous l'avez mentionné, le contexte, c'est les tensions avec la Chine et même une crainte de la Chine qui concerne le Japon et d'autres pays en Asie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans tout le discours sur les questions de défense au Japon et de stratégie extérieure, c'était très clair lors de l'intervention de Shinzo Abe au dialogue Shangri-La qui s'est tenu à Singapour il y a quelques semaines, eh bien, il faut répondre à la menace chinoise en s'engageant plus fermement aux côtés des Américains, en assurant l'engagement des États-Unis aux côtés du Japon et éventuellement se préparer aussi à soutenir les pays qui, comme le Japon, s'inquiètent de la montée en puissance de la Chine.
Et on verra lesquels. Jean-Marie Buissou, partage du fardeau ou inquiétude de Tokyo vis-à-vis de l'allié américain?
Il y a les deux. En fait, les Japonais en ce moment sont aux prises avec un double dilemme, un dilemme face à la Chine, parce que tout conflit coûterait extrêmement cher au Japon, quelle qu'en soit l'issue. Même si on ne parle pas évidemment de frappe chinoise sur le territoire japonais, une Chine qui serait humiliée deviendrait une Chine instable. Et comme la Chine est le premier partenaire économique du Japon aujourd'hui, c'est un scénario de cauchemar. Ça, c'est la première chose. Mais dilemme face aux États-Unis aussi, parce que quoi qu'en disent les États-Unis, le Japon n'est pas certain à 100% que les États-Unis seraient prêts à risquer un conflit majeur avec la Chine pour les îles Senkaku, même s'ils disent le contraire. D'un autre côté, les Japonais n'aimeraient pas du tout être entraînés dans un conflit avec la Chine, qui serait un conflit de manière générale, si vous voulez, pour le maintien de la suprématie mondiale américaine. Ce conflit peut peut-être apparaître comme inévitable sous une forme ou sous une autre à terme, mais après tout, le maintien de la suprématie mondiale américaine, c'est pas l'intérêt national du Japon immédiat. Par conséquent, les Japonais sont mal à l'aise des deux côtés. Alors évidemment, la stratégie japonaise, elle est assez claire. D'une part, évidemment, coller aux États-Unis plus que jamais, comme le disait le Premier ministre Koizumi, qui a été le mentor de M. Abe, il ne faut pas laisser entre les États-Unis et nous plus d'une feuille de papier à cigarette. D'où, effectivement, cette idée de monter en grade en se dotant d'un outil militaire et en autorisant à cet outil militaire les missions qui lui permettraient d'aider efficacement, dans certaines limites, les forces américaines. Mais d'un autre côté, il est clair que les Japonais veulent aussi se mettre matériellement en position de pouvoir faire face seuls à une menace dans leur environnement immédiat.
Marianne Perrandoise, un commentaire sur ce qui s'est dit jusqu'à présent.
Oui, ce que je trouve intéressant dans la situation actuelle, c'est ce parallèle un peu biaisé, certes, qui est fait avec la guerre froide. Mmh. C'est-à-dire qu'on évoque un climat de guerre froide en Asie orientale. C'est un narratif extrêmement utile. Mais en fait, le paradoxe, c'est qu'il ne s'agit pas d'une guerre froide entre les deux grands, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis. On voit que, en fait, les tensions se déplacent davantage sur les alliés. Et donc, on a le sentiment que c'est le système d'alliance des États-Unis en Asie, qui est en cours de recomposition, avec effectivement un allié jusqu'à présent peut-être contraint par sa constitution, mais qui prend de plus en plus d'initiatives pour devenir un véritable partenaire. Et donc on assiste progressivement à un rééquilibrage de la garantie de sécurité de la part du Japon au profit des États-Unis. Donc il y a un jeu de réassurance mutuelle qui est assez intéressant, parce que, comme mes collègues l'ont souligné, il y a une Chine qui, par des manœuvres diverses, sanctuarise ses approches, est de plus en plus agressive et n'inquiète pas simplement le Japon, mais en mer de Chine du Sud, le Vietnam, les Philippines et tout un ensemble d'autres pays, l'ensemble des pays de l'ASEAN. Donc c'est un climat de recomposition à l'échelle régionale très intéressant à observer.
Alors on va le développer tout cela, bien évidemment, cette recomposition régionale que vous évoquiez à l'instant, Marianne Perrandoise. Qu'est-ce que l'on peut dire de la carte géographique des alliés potentiels du Japon en Asie orientale? En d'autres termes, pour qui Tokyo serait-il prêt à intervenir? Et au-delà de cela, comment expliquer ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de retour du Japon, Jean-Marie Bousseau?
Alors, la première chose, c'est qu'il faut faire attention quand on dit « le Japon peut intervenir ». La réinterprétation de la Constitution que M. Shinzo Abe a rendue officielle, et qui n'est pas d'ailleurs une révision de la Constitution, on ne change pas le texte, permet effectivement au Japon de contribuer à la défense de ses pays amis, mais ne signifie pas de s'engager dans une action militaire. C'est d'apporter différentes formes de soutien, mais pour l'instant, la participation des forces japonaises dans un rôle combattant, ça reste encore un énorme monde. Et M. Abe se défend de vouloir en venir là, même si on peut soupçonner qu'il a des arrière-pensées. Alors, qui peut être concerné? Alors, les médias japonais parlent de plusieurs configurations stratégiques possibles. On parle beaucoup, par exemple, c'est une expression du gouvernement Abe, « security diamond », le diamant de la sécurité. Vu de Tokyo, ça comporte l'Australie, l'Inde, les États-Unis et le Japon. Le cœur dur des alliés et des alliances japonaises. D'autre part, les Japonais, évidemment, sont intéressés par tous ceux qui sont menacés par les ambitions chinoises sur mer. Au premier chef, le Vietnam, qui a déjà prouvé sa capacité à faire face à la Chine au cours de l'histoire. D'autre part, les Philippines. Mais jusqu'à très récemment, les Japonais étaient très intéressés également par un rapprochement avec la Russie. Les Japonais ont fait beaucoup ces dernières années pour se rapprocher de la Russie, y compris au plan militaire. Et en ce sens, d'ailleurs, le conflit ukrainien est une catastrophe pour la diplomatie japonaise. Donc, il y a, si vous voulez, deux cercles. Le cercle du diamant de sécurité et puis des partenaires potentiels. Ils le sont parce qu'ils sont menacés directement par la Chine.
Valérie Niquet, un commentaire?
Oui, alors je voulais simplement ajouter que autre élément de l'évolution de la stratégie japonaise, c'est que le Japon désormais peut également vendre des armements à l'étranger, ce qui n'était pas le cas auparavant, en tout cas il y avait des limites beaucoup plus importantes, et que donc d'ores et déjà le Premier ministre Abe a fait des offres au Vietnam, aux Philippines, au titre de l'aide au développement pour les aider justement à acquérir les moyens maritimes de puissance navale qui leur permettraient de faire face à la puissance chinoise encore une fois. Donc on voit bien que cette coopération et ce rôle de sécurité proactive du Japon dans la région, qui est d'ailleurs bien accueilli par les pays de la région, si on met de côté évidemment la Chine ou dans une moindre mesure la Corée, eh bien ça passe aussi par un développement du rôle du Japon comme fournisseur d'armement à ses voisins.
Marianne Perrandoise, à propos de cette, alors non pas de révision de la Constitution, mais en tout cas changement de stratégie tout de même de la part du Japon, on évoque l'idée que Tokyo est en train de vendre son âme pacifiste.
Oui, alors la nuance qu'a introduite Jean-Marie Bussou est quand même importante, puisqu'on parle très vite de révision de la Constitution. Non, c'est une réinterprétation, et le gouvernement Abe a su y mettre les formes, pensant évidemment que la population japonaise très très attachée à la Constitution dite pacifiste n'apprécierait pas ces nouvelles initiatives ou ce pacifisme proactif ainsi que se plaît à l'habiller le gouvernement Abe. Donc il y a à la fois, je dirais, une certaine forme de prudence sur le plan intérieur, mais en même temps un grand volontarisme diplomatique, comme l'ont souligné mes collègues, dans le renouvellement d'une forme de coopération militaire qui passe par le biais d'une assistance. Donc il y a toujours un habillage très mesuré. On n'ose pas parler de partenariat stratégique, peut-être avec l'Australie et avec l'Inde, qui sont des partenaires plus éprouvés. Donc il y a quand même, dans cette stratégie de sécurité nationale, il y a cette création d'un Conseil national de sécurité qui rappelle très fortement celui des États-Unis. Donc on voit un cabinet et un Premier ministre Abe qui est très très volontariste, mais qui se donne les moyens de réagir en cas de crise, de façon à avoir un certain nombre d'outils à sa disposition et qui progressivement élargit l'empreinte diplomatique et stratégique du Japon.
Alors, on a parlé des alliés du Japon, vous les avez cités, Jean-Marie Bussou, pour mémoire, Australie, Inde et puis Philippines, Vietnam. Alors, cette décision tout de même du gouvernement japonais, elle ne fait pas que des heureux. Je pense à la Corée du Sud qui a plutôt violemment réagi.
Oui, les relations Japon-Corée en ce moment sont très intéressantes parce que Japon et la Corée du Sud sont deux alliés naturels, puisque tous les deux sont en accord de défense avec les États-Unis. Ils ont en principe les mêmes problèmes avec la Chine, à savoir une grosse concurrence économique et des conflits territoriaux. Et en même temps, Japon et Corée sont comme chien et chat. Les Coréens arrivent juste derrière les Chinois comme la nation la moins aimée par les Japonais. Les nationalismes sont à vif entre les deux pays sur des questions historiques et d'autre part sur le conflit territorial des îles Takeshima. Et actuellement, les relations se jouent à franc renversé en fait. Il vient d'avoir à Séoul un sommet entre le leader chinois Xi Jinping et la présidente de Corée du Sud, où on s'est dit énormément d'amabilité et où on s'est mis d'accord pour réactiver le problème douloureux des femmes de réconfort avec le Japon. Mmh. Et d'un autre côté, M. Abe est en train de courtiser Pyongyang de manière assez ouverte, en ayant réussi à amadouer, semble-t-il, Kim Jong-un pour ouvrir le dossier des Japonais enlevés par les services secrets nord-coréens il y a quelques décennies. Donc actuellement, si vous voulez, Tokyo fait la cour à Pyongyang et Séoul et Pékin marchent apparemment la main dans la main. Donc là, il y a une faille véritable dans le dispositif américain.
Faille dans le dispositif américain, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si Valérie Niquet veut rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marie Bussou.
Oui, effectivement, on voit bien qu'il y a la mise en place en Asie de systèmes de relations triangulaires très solides, comme notamment entre le Japon, l'Australie et les États-Unis dont a parlé Jean-Marie Bussou et Marianne Perrandoise. Mais en revanche, le triangle essentiel qui fait directement face, encore une fois, à la Chine, ce serait le triangle Corée du Sud, Japon, États-Unis. Il existe. D'ailleurs, le rapprochement entre la Chine et la Corée du Sud bute sur cette dimension stratégique de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis. Les Coréens du Sud ne sont pas prêts non plus à abandonner leur allié américain et à se trouver seul face à la Chine, mais tout de même, il est très affaibli par les tensions très violentes qui s'expriment entre le Japon et la Corée du Sud, bon, à la fois pour des raisons historiques et également pour des raisons sans doute de politique intérieure qui sont présentes à Tokyo, mais aussi à Séoul.
Alors moi justement, j'aimerais pour nos auditeurs rebondir sur cette persistance des questions historiques dans les relations entre les uns et les autres, entre la Chine et le Japon, entre le Japon et la Corée du Sud. Qu'est-ce que l'on peut dire dessus, Marianne Perrandoise ?
Alors, c'est malheureusement un domaine qui ressurgit régulièrement et qui est évidemment instrumentalisé à l'envi par les uns et par les autres pour affaiblir leurs voisins. Les questions du passé, Jean-Marie Bussou les a évoquées. la Corée du Sud et le Japon ont toujours ce même retour crispé sur les femmes de reconfort, sur la période de colonisation japonaise. Mais effectivement, dès que le premier ministre japonais prend l'initiative d'aller rendre visite au temple de Yasukuni, vous avez la Chine qui, elle aussi, va rappeler certains épisodes douloureux et va rappeler l'attitude du Japon pendant ce qu'ils appellent la Grande Guerre du Pacifique. Donc on sent bien qu'il y a une difficulté à surmonter ce passé qui reste encore très proche, mais qui est quand même instrumentalisé pour, je dirais, donner un gage aux opinions publiques et avancer des stratégies nationales où il faut tour à tour, je dirais, avoir un ennemi, que ce soit le Japon ou la Corée du Sud. Donc c'est un jeu que l'on voit se développer au fur et à mesure que les gouvernements finalement ont besoin de distraire l'attention aussi de leurs opinions publiques. Mais c'est vu de l'extérieur tout de même un grand élément de surprise, et notamment quand on considère l'alliance de sécurité des États-Unis avec la Corée du Sud et le Japon, de voir qu'au moins ces deux partenaires d'Asie orientale n'arrivent pas à former une alliance solide et qu'une profonde inimitié peut ressurgir entre Séoul et Tokyo très régulièrement, mais quelquefois très violemment.
Donc des nationalismes qui s'alimentent les uns les autres sans cesse, Jean-Marie Bouissou.
Oui, on peut dire ça comme ça. Ce qui est intéressant actuellement, c'est que le gouvernement de Shinzo Abe a, sur les questions historiques, une attitude beaucoup plus raide que la plupart des gouvernements japonais depuis très longtemps. C'est-à-dire que le gouvernement japonais ne laisse plus rien passer. Quand un groupe de résidents coréens aux États-Unis érige une statue aux femmes de réconfort, aussitôt le gouvernement japonais fait bouger les résidents japonais aux États-Unis pour protester, etc. Quand le gouvernement chinois et le gouvernement de Corée du Sud se mettent d'accord pour ériger un monument à la mémoire d'un nationaliste coréen qui a assassiné un chef de gouvernement japonais, aussitôt, le Japon se met à protester et considère que c'est une injure nationale. Donc, le gouvernement ne laisse plus rien passer et c'est à dessein. Je pense que le gouvernement Abe essaye en ce moment de souffler sur les flammes du nationalisme japonais parce que c'est le meilleur moyen de faire passer, évidemment, sa nouvelle politique, la politique de réarmement, d'interventionnisme en Asie, etc. Mais d'ailleurs, il faut bien dire que on n'en parle pas trop, mais l'opinion embraye assez mal. D'après les derniers sondages, guère plus de 20% des Japonais seraient d'accord avec une révision de la Constitution. Un certain nombre de mesures, comme le vote d'une loi créant la notion de secret national et punissant ceux qui divulguent les secrets nationaux, ça a provoqué des manifestations assez soutenues, une réprobation quasi générale des milieux intellectuels. Et le projet de réinterprétation de la Constitution a même provoqué quelque chose dont les médias japonais ont extrêmement peu parlé, mais un homme a essayé de se faire brûler vif en plein Tokyo. Donc le gouvernement compte sur tous ces incidents provoqués par les conflits mémoriels pour entretenir une tension nationaliste.
Valérie Niquet, vous partagez ?
Oui, c'est à la fois vrai. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que, alors même que effectivement le gouvernement de Shinzo Abe peut être considéré comme un des plus nationalistes, entre guillemets, au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les mesures qui ont été adoptées dans le sens d'un rôle militaire plus important du Japon en Asie sont bien accueillies, encore une fois, dans l'ensemble des pays d'Asie, y compris des pays qui ont également subi les malheurs de la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme les Philippines, par exemple, qui demandent au contraire à ce que le Japon joue un rôle de sécurité bien plus important. Donc juste pour l'opinion publique au Japon, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marie Bouissou. Et donc la dimension de l'instrumentalisation, comme le disait Marianne Perrondoise, en Chine et dans une moindre mesure sans doute en Corée, me paraît absolument essentielle. En Chine, ce ne sont pas tellement la mémoire de la guerre et les malheurs du peuple chinois que l'on rappelle sans cesse, c'est véritablement une manière pour le Parti communiste de conserver la main par rapport au Japon et d'interdire en quelque sorte la réémergence d'un Japon puissance normale, comme on le disait à certains moments, qui serait un concurrent direct pour la puissance chinoise.
Voilà, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités Valérie Niquet, Marianne Perrondoise et Jean-Marie Bouissou dans quelques instants.